Vencemos as barreiras en fe. Reconocémonos todas mujeres, no sentir donos allá. Oprimidas as mujeres, queremonos revelar.
Bonjour, la révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, avant de parler d'actualité, il y en a tellement de luttes féministes. Eh bien, je vais vous parler d'un documentaire que je m'étais promis de regarder depuis longtemps et je ne l'avais pas fait. Et donc, ce documentaire m'a vraiment scotché, m'a vraiment très très intéressée, parce que je me pose souvent la question qu'est-ce qui influence tant dans notre culture la misogynie, le machisme. Eh bien, une de mes réponses, ce sont notamment les religions. Mais ce documentaire, donc de Sophie Robert, ne parle pas des religions, mais parle de la psychanalyse, qui fait partie de notre culture et montre à quel point elle influence à la fois la justice ou plutôt le déni de justice concernant les violences faites aux femmes, notamment concernant le viol et l'inceste. Ça explique beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un documentaire réquisitoire sur les psychanalystes. Alors d'abord, elle a créé qui est Sophie Robert. Sophie Robert, elle a aussi réalisé Le Mur et la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme en 2011. Elle a réalisé le documentaire dont je vais vous parler un petit peu en détail en vous passant quelques extraits pour vous donner envie de ensuite aller le voir, parce que c'est un documentaire que l'on trouve sur YouTube. Il est en accès libre, il dure environ 2 heures, donc évidemment je vais juste vous passer quelques extraits et en parler pour que vous ayez ensuite certainement envie de le voir dans sa totalité. Donc le documentaire Le Phallus et le Néant sur la théorie sexuelle des psychanalystes orthodoxes. Elle a aussi un documentaire qui s'appelle Marténophobie en 2018 sur le désenfantement des mères par la psychiatrie. Et prochainement, elle va faire un documentaire qui s'appelle Mauvais genre, un scandale sanitaire, qui doit sortir fin 2022 en 2 fois 60 minutes et qui traite de l'épidémie transidentitaire qui, avec un peu de retard sur les pays anglophones, a atteint la France. Donc, Dragon Bleu TV, c'est une chaîne qu'elle a créée, transmédia française, dont la ligne éditoriale est scientifique. Elle est axée sur les sciences humaines, sciences de l'éducation, psychologie et psychiatrie. Elle traite de sujets de société, comme l'accompagnement du handicap ou la neurodiversité. Ses réalisations s'adressent au grand public, aux personnes handicapées ainsi qu'aux professionnels du soin. Plusieurs de ses films ont reçu le soutien du ministère de l'Éducation nationale et du secrétariat d'État aux personnes handicapées. En 2019, ce dernier a décerné la Légion d'honneur à la responsable, donc Sophie Robert, donc, qui est féministe aussi, donc à la féministe Sophie Robert, en soulignant les qualités pédagogiques de ses films et un service rendu à la société dans l'accompagnement du handicap. Voilà donc pour la présentation de sa chaîne et de qui est Sophie Robert. D'ailleurs, je l'ai contactée, j'espère prochainement la faire venir pour participer à une émission, ça serait formidable. Donc, je vais vous parler donc de ce documentaire, Le Phallus et le Néant. Alors, je veux rappeler d'abord quelques chiffres parce que ce documentaire aborde aussi l'inceste. Donc, sur l'inceste, 1 fille sur 5, 1 garçon sur 13 ont été victimes d'inceste. 165 000 enfants sont violés chaque année. Moins de 1% des violeurs seront condamnés concernant les adultes. Et pour l'inceste et les violences sexuelles sur les enfants, c'est carrément 0,3% des violeurs qui sont condamnés, donc totale impunité. Ces chiffres sont effarants et donc il faudrait en comprendre quels sont les verrous. Et bien notamment, justement, il est intéressant de s'intéresser à la psychanalyse qui influence notre culture et qui influence beaucoup les experts judiciaires masculinistes qui sévissent et qui et c'est un verrou puissant. Effectivement, là je fais une parenthèse pour vous donner un exemple d'expert judiciaire qui sévit. Eh bien, nous avons un exemple par exemple avec Paul Bensoussan, qui est un psychiatre, malheureusement, expert auprès de la Cour de cassation. Je dis malheureusement parce qu'il fait beaucoup de mal aux victimes de violences sexuelles notamment et d'inceste, où notamment il s'est chargé de décrédibiliser Julie, qui a été, je rappelle, violée par 20 pompiers et dont 3 pompiers ont seulement été inquiétés, les 17 autres n'ont pas été inquiétés. En fait, Paul Bensusson, c'est quelqu'un qui euphémise, qui normalise le viol conjugal. Il appelle les conjoints violeurs des conjoints indélicats ou des conjoints balourds. Il souhaite faire une distinction entre le viol et la sexualité imposée, comme si le viol conjugal n'était pas un viol. Bon, je vous cite entre autres des choses qu'il a dites. Il s'oppose au féminisme. Il déclare avec les MeToo et Balance ton porc, on peut se demander si la guerre des sexes est déclarée. Il qualifie les grands mouvements de libération de la parole de courant victimologique. Il prétend qu'en matière de violence sexuelle, l'accusé est présumé coupable, ce qu'il appelle une dérive. Voilà, donc il faudrait bien rappeler à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, moins de 1% des violeurs sont condamnés en France. Et aussi rappeler qu'en 10 ans, les condamnations pour viol ont chuté de 40%, alors que le nombre de plaintes ne cesse d'augmenter. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient de ce psychiatre qui est un militant masculiniste? Eh bien, des expertises misogynes qui se retournent systématiquement contre les victimes et qui participent à l'impunité des agresseurs. Voilà, donc dans ce documentaire, je vais revenir sur le documentaire donc, de Sophie Robert, eh bien, on constate entre autres qu'il n'y a pas que Mazneff qui fait l'apologie de la pédocriminalité, il y a aussi des psychanalystes qui en sont assez spécialistes. Il y en a notamment un que l'on entend dans le documentaire qui s'appelle Giudino Gosselin, qui est connu hein, puisque c'est un psychanalyste lacanien, un sexologue réputé, qui a écrit un livre qui s'intitule « Qu'est-ce que la pédophilie ?». Et bien nombreux experts psy-judiciaires utilisent ces dogmes psychanalytiques qu'ils assènent dans les prétoires avec ce type d'argumentaire. Donc pour citer donc Giunino Gosselin, il dit « L'enfant est un pervers polymorphe, l'enfant jouit, la société, le fait social, la loi va faire en sorte que tout ça, toutes ces pulsions vont devoir être refoulées. L'enfant est un être sexuel et je crois que l'on l'ignore et il dit c'est le grand défaut de la société de ne pas le reconnaître, c'est des pulsions qu'il a. » Voilà, donc qu'est-ce qu'on obtiendrait si des psychanalystes s'allongeaient sur notre divan pour nous en parler, donc de cette vision de la sexualité et des rapports aux hommes-femmes, que nous dirait-il? Eh bien, c'est ce dont traite ce documentaire donc de Sophie Robert, Le phallus et le néant, voilà, qui est sorti dans les salles en 2019. Alors, avant de continuer à en parler, je vais vous en passer juste un extrait, donc l'introduction du documentaire de quelques minutes pour vous. Voilà.
Il existe plusieurs façons de soumettre une personne. Pour la plupart des gens, l'autorité et la menace suffisent. Si cette personne est intelligente et cultivée, il faut la convaincre que prêter du sens à un jargon incompréhensible lui permettra d'accéder à une connaissance suprême. Partir en quête d'une vérité cachée, inaccessible au commun des mortels, que seul un petit nombre d'individus seraient en mesure d'appréhender, au prix d'un rituel long, pénible et coûteux. Le prix à payer pour faire partie d'une élite.
Moi, je suis en psychanalyse lourde, 3 heures par semaine.
Les psychanalystes sont omniprésents dans les médias français où des personnalités leur font une publicité sans relâche. Les journalistes les convient à donner leur avis sur tout, persuadés que la pratique du divan leur donne une préscience sur les ressorts de l'âme humaine.
Le plus célèbre psychanalyste du PAF, Gérard Miller.
Les psychanalystes impressionnent par leur maîtrise du langage, leur référence culturelle et l'emploi d'un jargon hermétique qui sidère leur interlocuteur. Les psychanalystes parlent le psychanalyste, une langue obscure pour le profane qui se dit « je n'ai rien compris donc ça doit être très intelligent ». Je trouve étrange qu'une corporation aussi influente soit aussi hermétique pour la population. C'est pourquoi j'ai mené une enquête motivée par une question centrale. Où en sont les psychanalystes aujourd'hui de leur théorie et de leur pratique ? Qu'ont-ils fait de l'héritage de Freud et Lacan face aux découvertes des sciences et l'évolution des mœurs d'une société profondément différente de l'époque victorienne où sont nées les théories freudiennes? Je pars du principe que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Le but de mon travail est d'amener les psychanalystes à décoder leurs théories et leurs pratiques afin qu'elles soient compréhensibles pour chacun d'entre nous. Or, avant de se positionner comme une thérapie de l'esprit, la psychanalyse est d'abord une théorie sexuelle, très étrange mais très structurée.
Ce que Freud dit, c'est que la vie psychique est en conflit permanent du fait de la sexualité.
Il n'y a pas de sexualité harmonieuse, hein. Il n'y a que une sexualité boiteuse, pourrait-on dire, à l'image d'Oedipe, d'ailleurs, qui est quelqu'un qui boite.
Le refoulement, c'est quelque chose qui est tout à fait important, parce que la sexualité humaine, elle est de l'ordre de l'excès. On ne pourrait pas se laisser envahir par les pulsions sexuelles. Et le moi, si vous voulez, est obligé de se défendre de ces pulsions sexuelles.
Parce que le désir est non seulement un désir d'inceste, oui, il est fondamentalement un désir d'inceste, mais il est aussi un désir de destruction, un désir d'esclavagisation, un désir d'incorporation, parce que, disons, à l'horizon de la jouissance humaine, de ce qui fait jouir un être humain depuis la naissance, il y a une part de cette jouissance qui est fondamentalement nocive et qui cherche à se satisfaire.
Pour Freud, les pulsions sexuelles sont quand même des pulsions qui sont de l'ordre du cannibalisme, de l'inceste, du meurtre.
Cette vision de la sexualité charpente la clinique psychiatrique des psychanalystes et leur compréhension du développement de l'enfant. J'ai découvert qu'en dépit de leurs innombrables querelles de chapelle, ils se reconnaissent entre eux comme psychanalystes à travers l'adhésion à une poignée de concepts sexuels qui servent de fondation à toutes leurs théories. Que raconte cette théorie sexuelle ? Pour le savoir, j'ai filmé 18 psychanalystes freudiens et lacaniens, ainsi qu'un pédiatre très inspiré par le courant lacanien. La plupart sont écrivains et enseignent aux futurs psychanalystes. Ils ont la double étiquette de psychologue ou psychiatre, ce qui leur permet de diffuser la psychanalyse dans les universités de psychologie et les facultés de médecine. En parallèle à leur pratique privée, ils exercent dans des hôpitaux psychiatriques ou des établissements médico-sociaux. Je leur ai demandé d'expliquer leur vision de la sexualité et des rapports hommes-femmes, en assumant la dimension politiquement très incorrecte de leur théorie. C'est la première fois qu'un tel événement se produit devant une caméra.
Voilà. Alors, du coup, c'est un documentaire coup de poing, donc de 2 heures, qui marque véritablement. Et on en ressort assez sidéré, sonné, voire nauséeuse. Ce sentiment n'est évidemment pas lié au film en lui-même, mais en fait, ça entraîne le spectateur sans le lâcher du début jusqu'à la fin. Et cela est lié du fait de propos déstructurants, absurdes, voire destructeurs des intervenantes et intervenants. Donc c'est un documentaire qui est le fruit d'un travail de 4 ans de la réalisatrice Sophie Robert, qui a donc réalisé aussi un documentaire qui s'appelle Le Mur, consacré à l'autisme. Elle a rencontré 52 psychanalystes et au final, elle en a retenu 18 au montage, donc 18 psychanalystes représentatifs de sexe masculin et féminin et de toute génération. Des psychanalystes freudiens et lacaniens orthodoxes pour décortiquer avec eux la théorie sexuelle en leur demandant d'assumer la dimension politiquement très incorrecte de leur théorie. Ils se sont prêtés au jeu avec une gourmandise visible et le résultat est stupéfiant. Sophie Robert a également lu de très nombreux livres sur le sujet. Son documentaire ne tombe donc pas dans la caricature, mais dans la présentation de théories abominables, relayées depuis des générations et qui ont fait moult dégâts chez les patients. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ces théories, on trouve pêle-mêle que la femme n'existe pas, que la femme c'est un trou, le primat du phallus, l'envie du pénis, donc la femme eh bien, c'est un être en manque, qui ne se définit que par le manque, l'idée que la femme a quelque chose en moins, le phallus, et tout repose en effet sur le mantra lacanien de l'impossibilité pour une femme de s'identifier positivement à un être femme. Pour un psychanalyste, il y aurait une déconnexion absolue, une incompatibilité irréconciliable entre le sentiment d'être une femme et le sexe féminin biologique, au motif que celui-ci n'aurait pas de représentant dans l'inconscient. Alors là, je vais citer, il y a beaucoup de citations donc, dans le documentaire, j'ai pas pu toutes les noter, donc je vais juste en citer une de Lacan, sommaire 3, les psychoses, qui dit « Le sexe féminin a un caractère d'absence, de vide, de trou, qui fait qu'il se trouve être moins désirable que le sexe masculin. La psychose consiste en un trou, un manque au niveau du signifiant. Il n'y a rien de plus dangereux que l'approche d'un vide. » En psychanalyse, la supposée absence de féminin dans l'inconscient joue un rôle nodal, quasi-développemental, dans la psychopathologie. Il ne faut pas sortir de la logique binaire de la femme soumise à l'ordre phallique. Le destin assigné par la psychanalyse aux femmes est d'accepter son manque à être sa réalité d'être castrée. Alors là, je vais vous faire écouter. Mince. Du coup, si ça veut bien marcher, voilà. Excusez-moi pour les problèmes techniques que je peux avoir. Voilà, ça y est. Donc, je voulais, à propos de ce que je viens de dire là, vous faire écouter un deuxième extrait très éloquent. Voilà.
Je me suis aperçue que énormément de jeunes femmes qui n'arrivaient pas à se trouver un conjoint stable étaient phalliquement lourdes. Alors, la première lourdeur d'une femme, c'est d'être complètement autonome financièrement, de n'avoir besoin en rien d'un homme. Donc, déjà sur le plan portefeuille et sa carrière d'homme, il n'a aucun poids phallique.
Mais ça veut dire que avoir de gagner de l'argent, avoir une carrière, c'est être phallique.
Ah, ça, c'est phallique. Donc, oui. C'est même la définition de la phallicité.
Donc, automatiquement, une femme, elle ne peut pas être femme et mener une carrière et gagner de l'argent. Automatiquement, il y a un hiatus entre les deux.
En tout cas, elle devient une femme à phallicité lourde, pesante. Si elle est belle, c'est pire. Parce que la beauté, c'est phallique aussi.
Comment est-ce qu'on peut expliquer que la beauté, c'est phallique?
Ah, parce que c'est quelque chose qui a une valeur. Quand même, tout le monde admire, tout le monde. Elle peut s'en servir. Hein. Ce n'est pas son manque. Tout ça n'est pas du côté du manque.
Voilà, alors du coup, je reprends où j'en étais. Donc ensuite, donc dans ces théories, il y a aussi, par rapport à l'inceste, il y a l'idée pour eux que l'enfant est sexualisé, qu'il a des pulsions sexuelles et que le, entre guillemets, pédophile est un père aimant. Donc une des intervenantes, je vais vous faire écouter un extrait, dit, vous allez l'entendre, « L'inceste, ça ne fait pas tellement de dégâts, ça rend juste les filles un peu débiles ». Voilà, ah, donc je vais vous faire écouter ça tout de suite. Alors, voilà, l'extrait concernant l'inceste.
C'est aussi guidé par un réel désir du corps de l'autre. Un réel désir et une réelle excitation sexuelle, qu'on voit très bien chez les tout-petits.
Il y a un vrai désir d'inceste chez les enfants.
Oui, sauf... Oui, oui. Il y a une vraie pulsion, un vrai attirance, il y a un vrai désir, quelque chose d'extrêmement vif.
Mais je crois que les désirs de l'enfant, la violence des désirs de l'enfant n'a rien à envier à celle de l'adulte.
L'enfant est un être sexuel et je crois qu'on l'ignore. On l'ignore fortement et je crois que c'est le grand défaut peut-être de la société actuellement, c'est qu'on ne veut pas reconnaître à l'enfant cette sexualité. Ce besoin, enfin, c'est même pas un besoin, c'est ces pulsions qu'il a.
L'inceste paternel, ça fait pas tellement de dégâts. Ça rend des filles un peu débiles, mais l'inceste maternel, ça fait de la psychose. C'est-à-dire, c'est la folie. Mais la fille avec le père, elle n'est pas issue du père, hein. Elle n'a pas été dans le ventre du père. Donc il y a quelque chose, vous voyez, c'est un inceste secondaire, hein, je dirais ça. Alors que l'inceste primaire, le véritable, c'est la mère. C'est pénétrer la mère. Et les garçons qui pénètrent leur mère, ils sont psychotiques. Alors que la fille, non. Les filles peuvent... On a beaucoup d'expériences de filles avec des incestes paternels, se débrouillent pas trop mal. Bon, ça ne veut pas dire que ça va très très bien. Il y en a qui sont très très mal. Il y en a qui sont moins mal. Puis il y en a qui se débrouillent bon, autrement. Ce que je disais, un petit peu débile. Mais c'est très différent.
L'immense majorité des enfants abusés vont bien, à distance après le sévice. Elles ont bien sûr des craintes un peu précises, mais elles vont bien dans leur vie amoureuse, sexuelle, personnelle, professionnelle.
Dans ce schéma, la réalité du crime d'inceste est complètement inaudible. J'ai cherché à savoir quelles étaient les conséquences de ces théories psychanalytiques sur les personnes victimes d'abus sexuels.
J'ai été abusée, agressée, maltraitée par mon géniteur depuis bébé jusqu'à la fin de l'adolescence. Mon père était généraliste, il faisait aussi psy et gynéco. Et plusieurs fois, il m'a imposé par surprise des examens gynécologiques. Il me faisait à la fois une séance de psy, de l'éducation sexuelle, tout en me pénétrant en fait. J'étais malade physiquement, j'ai toujours eu des problèmes gastro, gynéco, de mémoire, dépression, ces pensées suicidaires très 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 fortes, des conduites à risque. Tout ce qui criait en moi qu'il y avait un problème depuis toute petite, lui, il y mettait tous les termes de la psychanalyse. C'était son dada, il n'a pas reçu de formation pour, mais en tout cas, il avait tout le lexique. Par exemple, la fois où je lui ai dit « Écoute, je veux plus te voir, parce qu'en fait, t'as abusé de moi. » Il m'a dit « Je pense que tu es sadique, avec un complexe sérotomane sur moi, et qu'il faudrait que tu apprennes à porter ta peau d'âne avec plus de dignité. » Je suis arrivée à la psychanalyse à un moment de gros craquage. J'avais fait déjà deux très grosses dépressions et je sentais que je replongeais complètement. Et je lui dis, je me suis fait violer par mon père, je ne pense qu'à ça, il y a des souvenirs atroces qui remontent. Elle me reçoit vraiment le visage fermé et tout de suite elle me dit, ce que vous m'avez dit au téléphone, ce sont des choses qui ne se disent pas au téléphone. On commence le travail ensemble, donc déjà je faisais très attention à mes mots. Un jour, je lui dis, non mais quand même, j'ai été violée par mon père toute mon enfance. Et elle me dit, non, vous ne pouvez pas dire ça comme ça. Ce que vous pourriez dire, c'est que vous estimez que d'une certaine manière, vous avez entretenu une relation d'ordre incestuel avec votre père. Et comme ça, vous ne vous placez pas en tant que victime. Alors je sais, victime, c'est très à la mode. Il faut faire attention à tout ce qu'on entend en ce moment sur les agressions sexuelles. Comme ça, on en fait tout un pataquès. On ne sait pas, en fait. Toutes les petites filles rêvent de faire l'amour avec leur papa. Par rapport à ce que j'ai vécu, quand je désirais vraiment en parler frontalement, pour elles, il n'était pas là le problème. J'avais l'impression d'être jugée. Des fois aussi, elle riait. Elle était secouée de rire ou de fou rire. Ouais. Ok, on arrête là aujourd'hui. Mais je pouvais être en train de raconter vraiment un cauchemar pédophile très agressif. Et tout à coup, elle commençait à rire. Elle me disait, ok, on arrête la séance. Si j'allais en analyse, c'était vraiment pour pouvoir tout dire sans filtre. Le mot victime, faut pas l'utiliser. Le mot inceste, c'est compliqué. Le mot viol, oh oui, oh là là, avec toutes ces féministes qui font un lobbying pas possible. Moi, je m'estimais comme une grande accidentée. Donc j'avais besoin de soins très bienveillants, très doux. Et ça, c'était refusé. Je repartais de la séance en ayant pleuré, fatiguée, pleine de haine, de colère, avec même pas une phrase bienveillante qui puisse m'indiquer un chemin d'apaisement à prendre. Je pouvais sortir de séance plus mal que j'y étais entrée. Ça demande à la fois de basculer dans le monde des idées et à la fois de débrancher son cerveau. Ça vous réclame aussi beaucoup de soumission.
Voilà, alors vous imaginez, donc vous avez entendu le témoignage, et bien les conséquences de ces théories donc sur les patientes victimes de violences sexuelles, d'inceste, sont terriblement désastreuse. Et voilà, donc on entend ces théories, on doit jouer à se soumettre, les femmes sont masochistes, le féminin c'est du manque, la conquête d'une femme par un homme viril c'est d'arracher ses résistances, etc. Donc là, on vient d'entendre le témoignage, l'interview d'une victime d'inceste qui a été traumatisée par les mots de ses thérapeutes. Ces mots qui constituent du coup un double traumatisme qui les a incités, ces victimes d'inceste, évidemment, vous imaginez, à se taire pendant des années. Alors, d'autres théories sexuelles par rapport à l'homosexualité. Donc, pour eux, l'homosexualité est un problème. Les homosexuels sont des psychotiques qui s'ignorent. Autre théorie sexuelle, eh bien, entre les hommes et les femmes, pour ces psychanalystes lacaniens, il n'y a pas de rapport sexuel possible entre un homme et une femme. Seule la perversion permet le rapport sexuel. Et ils glorifient Sade. Je vais vous faire écouter aussi un autre extrait concernant cela. Mais avant, donc, faut savoir que ces hommes et ces femmes sont tous des références dans leur domaine. Donc, à la fin du documentaire, vous avez leur nom et vous avez les fonctions qu'ils exercent. Ce sont également des enseignants, des formateurs dans les UFR de psychologie, les cursus de psychiatrie. La plupart interviennent dans des instituts qui accueillent des enfants autistes. Et donc, les théories foutraques de ces héritiers de Freud, Lacan ou de Dolto continuent à intoxiquer les esprits dans tous les domaines de l'éducation, à la santé, en passant par la justice. On comprend mieux, comme je vous disais tout à l'heure, le très faible pourcentage de victimes qui déposent plainte pour viol, le très faible pourcentage de procès aux assises et par-dessus tout cette terrible recherche du consentement chez l'enfant à un viol commis par un adulte. Donc oui, ça c'est très important aussi, par exemple, notamment pour l'affaire Julie, eh bien, je vous disais, Paul Bensoussan a décrédibilisé Julie et effectivement, ce qu'ils font à chaque fois, c'est que leur théorie, eh bien, c'est que l'enfant est consentant. Donc cette œuvre de ce documentaire, eh bien, je pense que c'est vraiment d'utilité publique. Et que si la psychanalyse a déjà été remise en cause et que les choses changent peu à peu, ces théories restent malheureusement influentes et prédominantes. Et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans la conclusion, que je vais vous faire écouter aussi. Alors, du coup, qu'est-ce que je ne vous ai pas fait écouter? Donc, avant la conclusion, ouais, je vais vous faire juste écouter quand même un extrait. Je ne peux pas résister par rapport à ce que j'ai trouvé donc intéressant, cette histoire que seule la perversion permet le rapport sexuel. En gros, c'est le thème de cet extrait. Donc, je vous laisse écouter cet extrait-là.
On a quelque chose de tout à fait étonnant parce qu'on voit comment il y a une libération aussi qui peut être accordée par l'expression de ce fantasme et sa transformation en objet d'art.
Le marquis de Sade est une figure héroïque pour les psychanalystes français qui le citent souvent en exemple pour revendiquer le caractère démoniaque de la sexualité. Sade est présenté comme le héros de toutes les transgressions, brimé par la morale bien-pensante. Comme tout ce qui touche à la réalité, les psychanalystes font totalement l'impasse sur le fait que le marquis de Sade a passé l'essentiel de sa vie en prison, non pas pour avoir écrit ses orgies sexuelles, mais pour avoir séquestré, violé et torturé une dizaine de femmes, dont plusieurs étaient mineures. Les psychanalystes n'exercent pas seulement à titre privé. Ils enseignent la psychanalyse dans les universités grâce à leur double étiquette de psychologue ou psychiatre. Ils dirigent des services de psychiatrie, exercent dans des établissements médico-sociaux et s'expriment en tant qu'experts auprès des tribunaux. Par l'intermédiaire du divan, ils peuvent avoir une influence directe sur quantité d'avocats, de magistrats, de journalistes, d'artistes, d'intellectuels, d'hommes et de femmes politiques. Résultat, culpabiliser la victime, innocenter le bourreau, défendre l'ordre patriarcal contre le droit, prêter au bébé des intentions sexuelles qui sont condamnées lorsqu'elles s'expriment chez une femme. Affirmer qu'une fillette peut être consentante d'un viol ou d'un inceste, voire coupable de ce qui lui est arrivé. Insinuer par l'intermédiaire du divan que la vérité est toujours ailleurs, à l'opposé du réel. Dès l'origine du mouvement, pourtant, des psychanalystes se sont rebellés contre les dictats freudiens pour questionner cette vision maladive de la sexualité. Ces rares dissidents sont morts les uns après les autres sans avoir fait école, incapables de convaincre leurs confrères de remettre en question les dogmes d'une corporation sectaire, repliée sur elle-même dans une démarche de plus en plus hostile au monde réel. Pendant combien de temps encore ?
Voilà, alors je reprends le micro, du coup... donc j'ai aussi fait des recherches par rapport à Freud et l'inceste et j'ai découvert quelque chose, donc je vais vous en faire part, donc peut-être que vous le savez déjà, mais en fait Freud a abandonné une découverte qu'il avait faite par rapport à l'inceste au profit d'une théorie qui se retourne justement contre les femmes et c'est sa théorie du fantasme. Donc au départ... Donc pour en parler, en fait, il y a une femme qui en parle très bien, qui s'appelle Marie Balmary, qui a en fait parlé de ça, de l'abandon de la découverte de Freud. Et elle a écrit à propos de ça des livres. Donc elle a écrit un livre qui s'appelle « L'homme au statut, Freud et la faute cachée du père » chez Grasset en 1979 et en 1997. Elle a écrit un autre livre, Le sacrifice interdit, Freud et la Bible, Grasset 1986. Et elle a écrit aussi La divine origine, Dieu n'a pas créé l'homme, Grasset 1993. Et puis en 2010, elle a écrit aussi Freud jusqu'à Dieu, Actes Sud 2010. Donc en fait, elle explique que l'histoire de la psychanalyse a pesé contre la vérité des enfants abusés. Donc dans cette ère des années 1970-1990, il ne faisait pas bon ramener des mots comme « interdit » ou « faute », ni de présenter une thèse sur la réalité des violences sexuelles sur les enfants. De cela, donc je cite en fait ce qu'elle dit, hein. J'ai fait l'expérience. Ma thèse a été refusée, puis un éditeur, en fait, a bien voulu la publier. Cela s'est passé ainsi. En juin 1976, avec mon professeur de thèse, un psychanalyste renommé, un entretien décisif. Après 5 ans de recherche, je lui fis part de ce que je pensais être une hypothèse nouvelle. Freud aurait renoncé non pas à une erreur, comme il l'a dit et comme on l'a répété après lui, mais à une découverte, celle de l'abus sexuel à l'origine de troubles qu'on nommait hystériques à cette époque. En 1896, Freud découvre que les femmes considérées comme hystériques qu'il reçoit ont été victimes d'abus sexuels, principalement d'inceste. Il écrit alors à son ami Fliès « L'hystérie me semble toujours davantage résulter de la perversion du séducteur. Il s'agit en effet dans l'hystérie plutôt du rejet d'une perversion que d'un refus de la sexualité. » Ça, c'est donc dans un livre qui s'appelle « Naissance de la psychanalyse ». Voilà. Freud en conclut que l'abus sexuel infantile était l'une des principales causes des troubles émotionnels chez les femmes adultes et rédigea un article brillant et humain intitulé « L'étiologie de l'hystérie ». Cependant, au lieu d'être acclamé par ses collègues pour ses idées révolutionnaires, il est victime de mépris, il est ridiculisé pour avoir cru que des hommes d'excellente réputation, il faut savoir que la plupart de ses patientes venaient de familles honorables, pouvait être auteur d'inceste. Et un jour, à la fois le poids de son histoire familiale, connue et inconnue de lui, et l'accueil glacial fait par la société de son temps, le feront basculer. En septembre 1897, il écrit à Fliès, son ami, « Je ne crois plus à ma neurotica, sa théorie du trauma sexuel à l'origine des névroses ». Il donne à cet abandon 2 raisons principales. La surprise de constater que dans chacun des cas, il fallait accuser le père de perversion, le mien non exclu. Et la conviction qu'il n'existe dans l'inconscient aucun indice de réalité, autrement dit, pas de preuve objective. Il propose à la place, du coup, le complexe d'Œdipe, qui devient le fondement de la psychologie moderne. Selon cette théorie, toute jeune fille désire en fait un contact sexuel avec son père, car elle veut rivaliser avec sa mère pour être la personne la plus spéciale dans sa vie. Freud a utilisé cette construction pour conclure que les épisodes de sévices incestueux que ses clientes lui avaient révélés n'avaient jamais eu lieu. Il s'agissait simplement de fantasmes, d'événements que les femmes avaient souhaités lorsqu'elles étaient enfants et qu'elles avaient fini par croire réels. Cette construction a marqué le début d'une histoire centenaire dans le domaine de la santé mentale, où l'on blâme les victimes pour les sévices qui leur sont infligés et où l'on discrédite carrément les témoignages des femmes et des enfants sur les mauvais traitements infligés par les hommes. Le terrain était préparé pour que certains psychologues considèrent que tous les comportements violents ou d'exploitation sexuelle qui ne pouvaient pas être niés parce qu'ils étaient simplement trop évidents devaient être considérés comme mutuellement causés. La littérature psychologique regorge ainsi de descriptions de jeunes enfants qui séduisent les adultes pour les amener à des rencontres sexuelles et de femmes dont le comportement entre guillemets provocateur amène les hommes à devenir violents ou sexuellement agressifs à leurs égards. Et finalement, en fait, donc elle a cette psychanalyste essayiste Marie Balmary, donc qui a écrit pour parler de ça, de l'abandon de la découverte de Freud. Eh bien, sa découverte donc qu'elle a faite donc en 1986, qui a été refusée par la Sorbonne, elle a réussi ensuite à la publier. Voilà, grâce à un éditeur Grasset. Donc vous pouvez retrouver ses livres, L'homme au statut, Freud et la faute cachée du père. Alors, je crois que je vais faire une petite pause musicale. Sinon, juste à propos de l'inceste, avant de faire une pause musicale, vous parlez de cette mauvaise actualité, justement à propos de l'inceste, à propos de Charlotte Kobel. Donc Charlotte Caubel, qui est nouvelle secrétaire d'État aux droits des enfants et qui a fait parler d'elle parce que elle a écrit sur un tweet des phrases qui en fait utilisent la sémantique des pédocriminels, ce qui est tout à fait gênant. En fait, elle écrivait à propos d'un film qui parle de l'inceste, donc un film qui parle d'une fille qui a subi l'inceste, qui s'appelle Dalva. Et Charlotte Caubel donc a écrit « Dalva est une enfant qui ne fait pas la différence entre aimer son père et faire l'amour avec lui. Son monde s'effondre quand elle devient une adolescente à protéger qui doit se reconstruire avec les enfants de son âge. C'est un film nécessaire d'Emmanuel Nico qui sort en mars 2023. » Donc évidemment, cette phrase qu'elle a écrite de l'enfant qui ferait pas la différence entre aimer son père et faire l'amour avec lui, eh bien, ça va pas du tout. Et du coup, on peut pas la laisser passer. Et il faudrait, donc toutes les associations qui luttent, féministes ou qui luttent contre ces violences, contre l'inceste, association de protection des enfants, ont fait savoir donc à Charlotte Caubel que lutter contre l'inceste, c'est refuser d'utiliser la sémantique des pédocriminels. Une enfant ne fait pas l'amour avec son père, elle subit un viol. Et nous refusons la glamourisation, la romantisation de l'inceste. Et voilà, pour construire des récits au plus proche des victimes. De même qu'un féminicide n'est pas un drame passionnel, l'inceste n'est certainement pas un échange amoureux. Donc cette sémantique a son importance, surtout chez une ministre dédiée. Et Sophia Sept, donc, qui est une féministe bien connue aussi, eh bien, rajoute que il n'y a pas d'inceste heureux. Et ça, c'est pas Charlotte Caubel qui l'avait dit, mais c'est Dupond-Moretti. Donc pour enfoncer le clou, une enfant n'est jamais consentante, elle subit. Et là, il faut lutter donc contre la culture du viol et la pédocriminalité qui est véhiculée sans arrêt dans la représentation, dans les mots que l'on utilise. Et le travail justement de cette secrétaire d'État, eh bien, c'est impardonnable parce que ça serait au moins de bien s'informer de tout ça et de lutter contre tout ça. Et il y a aussi donc justement la maman de Julie qui a réagi en disant ce tweet a ouvert une plaie béante en moi et en des milliers de victimes et de militantes. De sa place de secrétaire d'État à l'enfance, elle a trahi la cause des enfants, elle les a humiliés, abandonnés, elle leur a craché dessus. En plus, c'était une ancienne magistrate, Charlotte Caubel. Donc Corinne Leriche dit « Après une nuit blanche, tu sais ce que je viens de découvrir ?» Bah oui, Charlotte Caubel est une ancienne magistrate. Tu sais, les mêmes qui nous disent qu'une enfant est consentante à un acte sexuel avec un adulte. Les mêmes qui nous ont dit que Julie était consentante au viol qu'elle a subi par 20 pompiers de Paris. Elle fait partie de cette justice complice. Elle a ouvert une brèche derrière laquelle gronde la colère d'une mère. Et j'ajouterai de nous toutes. Donc je vais faire... une petite pause musicale. Alors, juste je cherche le morceau que je voulais passer. Voilà, un morceau d'Ennio Morricone, Sister Sarah's Theme. Thank you. No More Fight Left in Me de Imani.
Everything. I raised your children. I swimmed against the stream. I walked every mountain. What is it that you want from me? Is it my soul? Is it my body? What is it that I need to do so you can set me free? I am your daughter, your wife and a mother. I am your sister, I am your lover. I am your daughter, your wife and a mother. I am no quitter, I am a fighter. I want the power that you took away from me. I am misunderstood, and it makes me lonely. I am nobody's fool. Just know that you need me. What is it that you want from me? Is it my soul? Is it my body? What is it that I need to do so you can set me free? I am your daughter, your wife and a mother. I am your sister, I am your lover. I am your daughter, your wife and a mother. I am no quitter, I am a fighter. I want the power that you took away from me.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, je vais parler cette fois du voilement des femmes. Le voilement, donc instrument d'oppression, symbole et instrument de l'oppression des femmes. Alors, à la fois en France et en Iran. Donc, en France, nous avons appris que les producteurs du film Novembre, censés montrer la violence du terrorisme islamiste, se sont fait les alliés de l'idéologie islamiste, par stupidité ou par perversion. Donc je relaie cette information de Michel Vianès, Regard de femme. S'appropriant les codes vestimentaires islamistes, Ils ont représenté l'une des témoins clés de l'attentat par une actrice voilée pour signifier qu'elle est musulmane. Évidemment, la vraie témoin a refusé d'être assimilée aux islamistes et d'être représentée par une actrice portant le symbole de l'oppression des femmes. Outrée, elle a assigné les producteurs devant le tribunal administratif de Paris. Elle a simplement obtenu pas grand-chose, donc la diffusion d'un message au début du film avant le générique qui dit « Le port du voile islamique par le personnage de Samia Khelouf » qui incarne Sonia dans le film, répond à un choix de fiction qui ne reflète pas ses convictions personnelles. Totalement insuffisant. De qui se moque-t-on ? Pendant ce temps, en Iran, une jeune femme, Masha Amini, 22 ans, a été arrêtée parce qu'elle était mal voilée par la police de Téhéran, chargée de contrôler l'obligation pour les femmes de se couvrir entièrement les cheveux. Elle a été conduite au quartier général de la police, ainsi que d'autres personnes, en raison du port de vêtements inappropriés, pour, entre guillemets, recevoir des instructions sur les règles vestimentaires. Vendredi, donc ça c'était un mardi, le vendredi, la police de Téhéran annonçait son décès à l'hôpital, soi-disant à la suite d'une crise cardiaque. La famille affirme qu'elle avait été transportée à l'hôpital dans le coma, quelques heures après son arrestation. Alors en Iran, c'est magnifique parce que à Saqqez, des femmes, au péril de leur vie, retirent leur hijab et sont très menacées évidemment. Je pense qu'en Iran, on n'hésite pas à leur tirer dessus hein, dans ces cas-là pendant les manifs. Elles crient mort au dictateur pour protester contre ce qu'elles considèrent comme un assassinat, le décès de Masha Amini. Donc, je voudrais rappeler que les femmes de culture musulmane dans le monde entier, effectivement, se battent au péril de leur vie contre le hijab. Évidemment, ça, on n'entend pas parler, malheureusement. Pourtant, elles sont là. Et moi, j'en parle, donc féministe universaliste et laïque. Elles sont là, elles existent, elles demandent juste à être entendues. Donc, le hijab, c'est un outil patriarcal de l'assujettissement des femmes, hein, on le voit bien, un symbole misogyne d'oppression, d'aliénation, de contrôle du corps des femmes, de la sexualité, qui chosifie les femmes, qui les pornifie, qui les réduit à n'être que des vulves ou des utérus sur pattes. Le hijab est fondé sur des injonctions sexistes et religieuses et ou religieuses. Le hijab ne peut donc jamais être un libre choix. Et qui donc en parle aussi, donc ça c'était ce que je viens de vous résumer sur ce qu'est le hijab, ce sont les mots de Biti Lashgar, grande militante féministe universaliste marocaine, dont je vais vous parler encore et encore en fait, qui lutte pour les droits humains au Maroc, pour la liberté individuelle, pour la liberté de conscience. J'avais déjà fait une émission avec elle, je l'avais invitée, qui est vraiment une pionnière au Maroc. Et qui lutte aussi, et qui a lutté, qui continue à lutter pour les droits des LGBT. Donc je vais relayer aussi donc, à propos de Masha Amini, juste quelques mots, de Naïm Bestanji, pardon. Je ne vais pas vous lire tout ce qu'il a écrit à propos de Masha Amini, mais juste la fin d'une publication qu'il a fait, où il dit « Masha est morte parce qu'elle refusait que sa vie et ses rêves soient voilés d'un obscurantisme d'un autre âge, où la dignité des femmes est toujours piétinée par, entre guillemets, respect. Pour faire passer la pilule dans les pays non musulmans, des islamistes déclarent que le voile, accessoire vestimentaire le plus sexiste et patriarcal de l'histoire de l'humanité, ne serait qu'un simple bout de tissu. Les femmes menacées, violentées ou mortes pour ne pas l'avoir portée, apprécions. Masha Amini est morte. Le patriarcat tue. L'islamisme tue. Le refus du libre choix, du sexisme, du voile en est parfois la cause. Pour toutes les Machas du monde, par acte féministe, pour être les égales des hommes, le voile ne doit pas être porté sur la tête, mais foulé aux pieds. Free from hijab, let's us talk. Donc let's us talk aussi, c'est un mouvement dont j'avais relayé toutes ces femmes qui luttent contre le voilement et contre les injonctions religieuses islamiques. Alors du coup, je vous ai parlé de Betty. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé au Maroc qui est qui est très grave. Donc je vous ai dit que Betty Lashgar, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc., elle est porte-parole d'un mouvement qu'elle a créé au Mali pour les libertés individuelles. Et elle se bat donc pour les droits humains, pour les droits des femmes et pour les droits LGBT. En fait, au Maroc, il vient de se passer une histoire terrible, un drame terrible. Et donc voilà, je vais vous lire. Elle a écrit, en fait, en partant de ce qui s'est passé, eh bien, elle a écrit tout un article dans un journal Middle East Eye pour un peu faire la situation de ce qui se passe au Maroc pour les femmes, donc où elle va vous parler donc d'avortement, de viol, des lois marocaines, du code pénal marocain qui est misogyne. Et elle va vous parler de la criminalisation de l'adultère, des mythes de la virginité, etc. Donc voilà, je vais vous lire cet article qui est très très intéressant. La bien-pensance et le militantisme lisse profiteront toujours aux hommes. C'est ce que nous rappelle la triste affaire de Meriem, jeune Marocaine de 15 ans, décédée des suites d'un avortement clandestin après une grossesse provoquée par un viol. Elle se prénommait Meriem, elle avait 15 ans. Meriem n'est plus. La nuit du 6 au 7 septembre 2022, Meriem est décédée des suites d'un avortement à risque dans un pays où l'avortement est interdit. Meriem est morte victime de viol. Un homme âgé de 25 ans a sexuellement exploité Meriem. La jeune fille est morte en raison d'une grossesse non désirée, conséquence directe des violences sexuelles subies. Le bourreau a clandestinement organisé une intervention chirurgicale à son propre domicile, à 15 km de la ville de Midelt, dans le centre du Maroc, en présence de la mère de Meriem, infirmière, et de sa collègue sage-femme accompagnée d'un « entre guillemets technicien ». Meriem ne survivra pas, à, selon les premiers éléments de l'enquête, ce qui semble être un problème d'anesthésie causé par cet acte de torture. Dans le monde, une fille ou une femme décède tous les 9 minutes des suites d'un avortement à risque. L'association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin, AMLAC, estime que chaque jour dans le pays, 800 avortements à risque sont pratiqués. Il aura fallu 8 jours avant que la presse ne s'empare de cette tragédie. Et ce n'est pas faute d'avoir tenté d'alerter les médias. Avec les membres du mouvement alternatif pour les libertés individuelles, Mali, nous avons même mené une investigation et contacté les rares médias arabophones ayant relaté les faits. Enfin, j'ai personnellement rapporté l'affaire sur les réseaux sociaux. D'avoir dû forcer les portes est révélateur. Le système marocain reste inerte face aux violences à l'encontre des filles et des femmes. Corps colonisé, corps déshumanisé. Le féminisme est-il une lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes? C'est un leitmotiv réducteur. Nous ne voulons pas être les égales des hommes, nous voulons être des femmes libres, des esprits libres, des corps libres. C'est un combat acharné contre le joug du patriarcat. Nous, filles et femmes, ne voulons plus être discriminées, harcelées, opprimées, violentées, exploitées, vendues, achetées. Violé. Le droit à l'avortement est un droit inaliénable et j'y reviendrai, mais il est capital de rappeler les circonstances totalement oubliées dans lesquelles Meriem s'est retrouvée enceinte. Force est de constater que pour l'opinion publique comme pour l'ensemble de la presse, la lutte contre les violences sexuelles et la pédocriminalité sexuelle, Meriem était mineure, est absente du débat. La pédocriminalité sexuelle est passée sous silence. Certains médias ont même évoqué des relations amoureuses et présenté le jeune homme de 25 ans comme le petit ami. Or, il s'agit bien là d'une lutte globale contre la colonisation et l'assujettissement du corps des filles et des femmes par les hommes. L'exploitation sexuelle des filles et des femmes est l'un des fondements du patriarcat. Elle justifie et perpétue un système de violence masculine, physique et économique, d'exploitation des plus vulnérables, de marchandisation du corps féminin pour la satisfaction personnelle des hommes. Et cette objectivation du corps des filles et des femmes est le corollaire de leur déshumanisation. Filles et femmes sont réduites à des produits de consommation à la disposition des hommes, et le corps des filles et des adolescentes est hypersexualisé, pornifié. L'asservissement des femmes est total dès leur plus jeune âge. Une chose, un objet sexuel dont on use et dont on se sert, sur la base d'un mythe d'une sexualité masculine, biologiquement déterminée par un désir irrépressible. les femmes auraient la responsabilité de satisfaire la sexualité des hommes. C'est un véritable fléau dont l'urgence est d'en appréhender le phénomène afin de mieux lutter contre l'impunité et mieux protéger les enfants. Au Maroc, violences sexuelles et sexistes institutionnalisées. Au Maroc, les violences masculines et misogynes sont institutionnalisées aussi bien dans le code de procédure pénale que dans celui de la famille. Par exemple, l'article 420 du code pénal établit que les blessures faites et les coups portés sans intention de donner la mort, même s'ils l'ont occasionné, sont excusables lorsqu'ils sont commis par un chef de famille qui surprend dans son domicile un commerce charnel illicite, que les coups aient été portés sur l'un ou l'autre des coupables. Le 14 février 2018 a été adoptée la loi 103-13 relative aux violences contre les femmes. Le viol conjugal n'y est nullement mentionné, comme il est inexistant dans le code pénal. En 2022, cette violence sexuelle au sein des couples n'est pas encore institutionnalisée par une loi. Elle n'a pas été intégrée comme violence dans la loi 103-13, ce qui avait fait beaucoup réagir. Le viol conjugal serait halal, considéré comme un devoir conjugal, comprendre le devoir des épouses soumises à leur conjoint. Alors même que les relations sexuelles consenties hors mariage, fondées sur un désir mutuel, sont toujours criminalisées dans le code pénal marocain par l'article 490, l'adultère est réprimé par l'article 491. L'État marocain continue de distribuer des permis de violer sous couvert d'union maritale. Les politiques devraient s'indigner et s'opposer fermement au postulat de l'assujettissement d'une épouse au désir à sens unique et à la contrainte de son conjoint, libre de disposer du corps de l'autre en toute impunité. Les parlementaires sont responsables de l'objectivation du corps des filles et des femmes à des fins sexuelles. L'État marocain, coupable, piétine les droits des filles et des femmes en mettant leur santé et leur vie en danger. Le système judiciaire complice, patriarcal, comme peut l'être la société tout entière, est nourri à la culture du viol, à savoir le conditionnement des filles et des femmes à se soumettre au patriarcat, aux personnes qui ont le pouvoir, les hommes donc, et à leurs désirs. Tant que les violences sexuelles seront institutionnalisées, viol conjugal, exploitation sexuelle des mineurs sous couvert de mariage, etc., l'ensemble du système continuera de profiter aux agresseurs et de participer à leur impunité. Au Maroc, le mariage des mineurs est théoriquement interdit, mais l'article 20 du Code de la famille accorde le droit au juge des affaires familiales d'autoriser les unions de mineurs en moins de 24 heures. Ainsi, 19 926 demandes de dérogation ont été déposées en 2020, dont 13 335 acceptées, soit un taux qui avoisine les 70% selon les chiffres du ministère public. Autrement dit, le Code de la famille autorise et légitime la pédocriminalité sexuelle, dont 99% des victimes sont des filles. La justice et l'État marocain, dans sa globalité, réduisent les femmes à des objets sexuellement disponibles, en se faisant donc complices de ces violences sexuelles, sous prétexte de pulsions fantasmées, d'un instinct bestial que seuls les hommes connaîtraient, fondé sur le mythe patriarcal qu'est la virginité féminine, un concept totalement imaginaire de contrôle des femmes et de leur sexualité. Donc là, je fais juste une parenthèse à cet article de Betty. Elle a récemment refait une campagne par rapport à tous les mythes patriarcaux et notamment sur la virginité. Je mettrai le lien. Donc il y a un livre illustré qui est sorti pour démystifier tout ça. Alors l'article 488 du Code pénal dispose même de la notion abjecte de défloration et autorise la pratique rétrograde, sexiste et non valide scientifiquement du test de virginité sur les filles et les femmes victimes de viol, infligeant des peines plus sévères à l'agresseur selon la supposée virginité de la victime. La victime, violée une seconde fois, est blâmée et humiliée. Avortement, jusqu'à 2 ans de prison. Myriam a été victime de différentes formes de violences dans ce drame. Violences sexuelles, psychologiques et physiques, dont la prohibition de l'avortement, qui représente une violence contre les filles et les femmes portant atteinte à leur dignité et à leur intégrité psychique et physique. Le code pénal prévoit des sanctions allant jusqu'à 2 ans de prison pour une femme qui pratique un avortement, d'1 à 5 ans pour quiconque pratique un avortement sur autrui, de 10 à 20 ans s'il y a décès de la patiente et jusqu'à 30 ans s'il y a récidive. L'interdiction est une situation non seulement contraire au droit de chacune à disposer librement de son corps, à savoir de choisir d'avoir un ou une enfant ou pas, et ceci quand elle le souhaite, mais elle a aussi des conséquences désastreuses en matière de santé reproductive. Les femmes sont contraintes à recourir à des méthodes dangereuses. Le débat sur l'IVG et l'interruption volontaire de grossesse est-il ouvert au Maroc ? Pas tout à fait, contrairement à ce que nous pouvons lire ça et là. Officiellement au Maroc, l'avortement est autorisé lorsque la grossesse met en danger la santé ou la vie de la femme enceinte avec autorisation du conjoint. Il s'agit là d'une interruption médicale de grossesse, IMG, ou avortement thérapeutique et non d'une IVG. L'interruption de grossesse pour motif médical est revendiquée par de nombreuses associations, mais il ne s'agit en aucun cas de l'IVG comme droit des femmes à disposer de leur corps comme libre choix. En mars 2015, en plein débat sur les dangers de l'avortement clandestin, le roi Mohamed VI se saisissait du dossier et chargeait le ministre de la Justice et des Libertés, Mustapha Ramid, et le ministre des Affaires islamiques, Ahmed Taoufik, ainsi que Driss Aliazami, président à l'époque de la Commission nationale des droits humains, de mener des consultations élargies avec les religieux et la société civile sur la question. Il y eut également une audience avec les deux conseillers du roi et le ministre de la Santé, soit au total 7 hommes pour régir le corps des femmes. La commission a conclu que l'avortement ne pouvait être légal que dans 3 cas seulement. Lorsque la grossesse constitue un danger pour la vie et la santé de la femme enceinte, en cas de grave formation et de malformation et de maladie incurable que le fœtus pourrait contracter, et enfin lorsque la grossesse résulte d'un viol ou d'inceste. Ce projet adopté par le Conseil de gouvernement en juin 2016 est toujours en stand-by. Un projet de loi qui ne prend nullement en compte les droits des femmes et continue d'aliéner leur corps. Les femmes, de nouveau en minorité. Au sein du Mali, nous proposons un accompagnement aux femmes qui souhaitent mettre un terme à une grossesse non désirée et nous cherchons à garantir l'accès à un avortement sûr, particulièrement aux femmes en milieu rural, et cela par le biais de l'IVG médicamenteuse. Nous menons cette pratique depuis 2012, dans la mesure du possible, avec notre partenaire, l'ONG néerlandaise Women on Waves, dans le respect du protocole recommandé par l'OMS et suivi par de nombreuses ONG. Médecins, gynécologues et autres professionnels de santé qui acceptent de pratiquer des avortements, chirurgicaux dans l'écrasante majorité des cas, profitent souvent de la détresse des femmes pour faire un business lucratif, mettant en danger la santé, voire la vie de ces femmes, souvent maltraitées, sexuellement agressées, ridiculisées et arnaquées. Protéger les filles et les femmes grâce à un avortement sûr et légal est une urgence. La bien-pensance et le militantisme lisse profiteront toujours aux hommes. C'est ce que nous rappelle la triste affaire de Meriem. Nous, les femmes, sommes de nouveau en minorité dans les médias sur les sujets qui nous concernent, à savoir les droits sexuels et reproductifs. Le poids est toujours accordé à la parole masculine. Nos vies nous appartiennent, nous en sommes les seuls décisionnaires et garantes. Seuls les esclaves ont connu dans les sociétés modernes cette condition de ne pas disposer librement de leur corps. Oui, nous revendiquons notre droit au plaisir, notre droit de jouir. Nous revendiquons notre droit de maîtriser notre capacité reproductive et notre liberté d'être mère ou non. Nous réclamons la liberté de disposer de nos corps, de nos utérus, de nos ventres et de nos vulves, comme nous le souhaitons. Nous luttons et continuerons de lutter contre ces violences sexistes et sexuelles qui cantonnent la sexualité des femmes à la sphère du mariage et l'obsession nataliste qui en découle. Nous ne pouvons lutter contre les violences masculines sans lutter contre les stéréotypes sexistes ou toute autre forme de violence à l'encontre des femmes, par exemple économique, question de l'héritage. Le combat pour l'émancipation des femmes ne saurait être gagné sans les hommes. Les femmes ne sauraient atteindre l'égalité des droits et leur émancipation sans eux. Mais ils ne décideront plus pour nous. Nous silencier, c'est tuer une seconde fois des milliers de Meriem. Voilà, donc c'était un article écrit magnifiquement donc par Ibtissam Betty Lashgar. Je vais faire une autre petite pause musicale pour reprendre un petit peu mon souffle. Alors, voilà.
gravite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste.
Je reprends, la révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, je vais vous faire écouter, j'avais pas eu le temps de vous le faire écouter avant l'été, la lettre à un adjudant de Anne-Cécile Maillefer, donc, qui intervient avec des chroniques sur France Inter, des chroniques qui sont vraiment très belles. Et voilà, vous allez écouter, vous allez comprendre en fait, donc il s'agit de la lutte contre le système prostitueur et la pornocriminalité. Vous savez sans doute qu'il y a eu une mise examen récente de dirigeants de sites porno qui laissaient espérer la fin de l'impunité pour les pornocrates. Mais évidemment, vous en doutez, le milieu de cette industrie du viol tarifé est très puissant, très riche, richissime même. et donc mobilise sans arrêt des communicants, des avocats, etc., une contre-offensive. Alors, je vous laisse écouter donc Anne-Cécile Maillefer.
En toute subjectivité, ce vendredi, avec la présidente de la Fondation des Femmes, Anne-Cécile Maillefer, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, Anne-Cécile, lettre à un gendarme bouleversé.
Monsieur l'adjudant, des enquêtes vous en avez mené tant, mais vous n'imaginiez pas ce qu'allait déclencher celle-ci. Leïla, la première femme auditionnée, puis toutes les autres, vous ont expliqué ce qu'on leur avait fait et montré à voir ce qu'on a le plus de mal à croire, la réalité, dure, nue et qui fait des milliards de vues. Leïla est amadouée sur les réseaux sociaux par un homme se faisant passer pour une amie, à un moment de sa vie où elle est perdue et démunie. Elle lui propose d'être l'escorte d'un soir pour l'attirer de ses ennuis. Arrivée à l'hôtel, c'est l'homme derrière le faux profil qui l'attend et la détruit. L'amie virtuelle va la recontacter, la réconforter et propose de se rattraper. 300 euros pour un rapide tournage porno et bien sûr, aucune diffusion de la vidéo. Leïla est sidérée, mais après ce premier viol, elle est brisée et ne sait plus à qui se fier. Le stratagème a fonctionné. Elle se souvient ensuite d'un hangar, d'une palette en bois sur laquelle on la pose, que ce n'est pas un, comme prévu, mais 50 hommes qui s'exposent. 50 monsieur tout le monde qui ont répondu à une annonce pour faire partie d'un groupe d'hommes qui éjaculent sur une femme seule, un boukake immonde. Les souvenirs sont flous, mais la vidéo est très nette. Diffusée sur un site, son sévice fera le tour de la planète. Pour la retirer, il sera extorqué de 3000 euros, mais trop tard, copiée, répliquée, rediffusée, elle est sur le net. En enquêtant, vous avez découvert des centaines et des centaines de Leïla. Précaires, manipulées, violées, diffusées. 50 portent plainte aujourd'hui et désignent leur bourreau. À la base, c'était pas votre combat le porno. Votre métier, vous l'a prouvé, la société a parfois des allures de déglingué qu'il faut se prévenir de juger. Et pourtant, ce matin-là, en écoutant le témoignage de Leïla, vous avez compris une chose. Le porno, en fait, c'est pas du cinéma. Rien n'est simulé, rien n'est caché, tout est vrai. Ces films, ce sont de vraies scènes de crime. La fiction s'écroule, les femmes parlent et c'est toute une industrie qui vacille. Le principal producteur amateur porno français, Jackie et Michel, est aussi en garde à vue depuis peu. Et aux États-Unis, c'est Pornhub qui est visé. Âge, consentement, pratique, rien ne va. En 2021, les sites porno ont accueilli plus de visiteurs que Google et Facebook réunis. Ça devrait interroger que tant d'individus est bandé en regardant des femmes être violées. À force d'érotiser la cruauté, que va-t-on construire comme société ? Les neuropsychiatres expliquent que le porno entraîne une accoutumance à la violence, particulièrement pour les jeunes cerveaux. De fait, 13 ans est l'âge moyen du premier visionnage et beaucoup deviennent accros. Monsieur l'adjudant, pendant l'enquête, vos équipes vous ont vu pleurer. C'est ce qui se passe quand on est en empathie, quand on réalise que ce ne sont pas des corps factices, mais des humaines, comme vous, comme nous, victimes de ces vices. Si cette affaire est pour vous tout à coup si importante, c'est que vous vous mettez à espérer que grâce au futur procès, nous nous reconnections tous et toutes à notre propre humanité.
Anne-Cécile Maillefer, merci.
Voilà. Alors, vous savez peut-être que le 21 janvier 2022, Oser le féminisme avait signalé déjà plus de 200 liens vers 2000 vidéos illégales auprès de Pharos. Donc Pharos, c'est une plateforme qui lutte contre l'apologie du terrorisme, mais bon, visiblement, ça marche pas pour ce qui concerne les violences misogynes, parce que on n'a pas, il n'y a pas encore eu de, enfin, vraiment de retour sur ça. Donc, comme en parlait Anne-Cécile Maillefer, que voit-on dans les vidéos porno? Eh bien, on voit des actes de torture, de barbarie, des viols collectifs à 80, gangbang contre des femmes enceintes de 40 semaines, urine, coups, sadisme, atteinte physique irrémédiable, des viols, vidéos de la catégorie anal par surprise, l'apologie de la haine raciale, l'apologie de la pédocriminalité, vidéos de la catégorie teen et fantasme familial. Alors il y a Laurence Rossignol qui lutte énormément contre le système porno-prostitueur et qui avait interpellé au Sénat le 5 avril dernier à l'Assemblée nationale auprès du ministère de l'Intérieur pour rappeler justement les signalements d'Oser le féminisme et ces vidéos qui montrent tous ces actes de torture à commettre et des incidents qui sont rien d'autre que des incitations à commettre des crimes et des délits sur les femmes. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu rien du tout, quoi. Il n'y a pas, voilà, pas de réaction du gouvernement. Évidemment, la pornographie, c'est une industrie internationale multimilliardaire qui donc a beaucoup de répondants. C'est une industrie qui repose sur des violences, humiliations extrêmes contre les filles et les femmes les plus vulnérables. Et comme l'a dit Anne-Cécile Malifert, effectivement, l'impact sur la société tout entière est frappant. L'exposition des jeunes à ces contenus dès l'enfance ou l'adolescence a des répercussions sur le développement, la construction des modèles sexuels des hommes et des femmes de demain. Voilà, que dire d'autre ? Eh bien, j'ai su là le 8 septembre 2022 par le site Nouvelle News, qui est un site d'information journalistique féministe, que alors que l'ARCOM demandait conformément à la loi française le blocage des sites pornos restant accessibles aux mineurs, eh bien, ces sites ont obtenu une médiation. Donc, ils sont très forts. Ils ont, comme je vous disais, ce lobbying, il y a des avocats, il y a des communicants qui sont mobilisés par cette très riche et puissante industrie du porno qui s'est écrasée toute tentative de régulation. J'avais su aussi par les nouvelles news juste avant l'été que la très grande agence de communication, ils ont une très grande agence de communication qui est rompue à ce lobbying. Et qu'ils essayent de, pour les industriels du porno, essayent de noyauter tous les réseaux d'influence afin de peser bien plus lourd que les associations du droit des femmes dans l'opinion sur le législateur. Il y a notamment le patron français de la multinationale porno, Stéphane Paco, qui s'offre les services du cabinet d'avocats Quinn, Emmanuel, Huckart et Sullivan et de l'agence de communication Plaid, filiale du groupe Havas, pour préparer sa contre-attaque. Voilà, donc la fine fleur du lobbying proxénète international. Donc, affaire à suivre. Alors, du coup, je vais aussi exprimer mon ras-le-bol grâce à Meghan Murphy hein, par rapport à toutes celles et ceux qui relayent que le porno ou la prostitution, ça serait cool. Voilà, c'est des choses qui... C'est vraiment... écœurant le mal qu'ils font, puisque les personnes qui promeuvent le travail du sexe, hein, entre guillemets, bien sûr, ils font le boulot des proxénètes, hein, puisque si la prostitution est un travail, eh bien, le proxénète est un chef d'entreprise. Voilà. Et surtout, ils luttent contre la loi abolitionniste, qui n'est pas prohibitionniste, hein, je le rappelle pour celles et ceux qui n'ont encore pas compris, en fait, que les prostituées ne sont pas du tout empêchées de se prostituer, ne sont pas des délinquantes, que cette loi a permis justement d'enlever ça. Les prostituées ne sont pas poursuivies, mais ce sont bien les prostitueurs qui sont poursuivies. Et aussi cette loi qui permet des parcours de sortie aux prostituées qui veulent en sortir, qui sont l'extrême majorité évidemment, qui veulent en sortir, et donc les personnes qui promeuvent le travail du sexe empêchent l'application de la loi et empêchent ces personnes de sortir de ce système déshumanisant, à ce système criminel qui est fondé sur la traite. Je rappelle que la prostitution existe par la traite existe pour la prostitution, donc 90% des femmes coincées dans la prostitution sont victimes de traite et le reste sont des femmes qui ont pour 75% ont subi des viols ou agressions sexuelles dans l'enfance ou des femmes migrantes étrangères très pauvres qui par désespoir tombent dans ce système prostitueur. Voilà. Donc, du coup, je vais vous lire cet article, je vous disais, pour exprimer mon ras-le-bol de toutes ces personnes soi-disant progressistes qu'on entend sans arrêt relier ce vocable de travail du sexe et qui donc, en fait, font le boulot des proxénètes. Et c'est quelque chose qui me rend malade. Alors, donc Meghan Murphy, c'est une féministe qui est une écrivaine, journaliste indépendante qui vit à Vancouver en Colombie-Britannique. Elle fait des podcasts, elle écrit sur le féminisme depuis 2010. Donc là, elle vient d'écrire un petit article que j'ai, qui m'a bien plu, je vais vous lire, donc qui s'appelle Coulitude, l'insupportable coulitude du porno et de la prostitution, en fait, ensemble. Et qui revoit un petit peu comment c'est devenu cool, surtout malheureusement souvent à gauche, ou comment c'est devenu cool malheureusement aussi avec le transactivisme qui promeut aussi la prostitution. Ça va bien ensemble. Donc voilà ce qu'elle dit. Il y a un peu plus de 10 ans, j'ai commencé à remarquer que j'étais presque seule à considérer des choses comme la prostitution et la pornographie comme des pratiques inquiétantes et nuisibles. Dans les départements d'études sur les femmes qui étaient en train de se transformer en départements d'études de genre, l'approche commune était de considérer l'industrie du sexe sans jugement. Il disait, on ne pouvait pas vraiment connaître la situation de chaque femme ou fille qui se prostituait, alors qui pouvait dire avec certitude si elle était personnellement heureuse ou malheureuse, exploitée ou non. Au sein de la gauche, la lutte s'est concentrée sur la légalisation. Le travail du sexe est un travail, disait-il, et la question est celle des droits du travail, et guère plus. C'était stupide à mon avis, car aucune femme ou fille saine d'esprit ne, entre guillemets, choisirait et encore moins n'apprécierait d'avoir des relations sexuelles avec des hommes étrangers pour de l'argent. C'est une pratique intrinsèquement dangereuse et inhumaine. Et même si quelques femmes choisissaient, entre guillemets, de vendre du sexe, payer pour du sexe est coercitif. Nous savons tous que lorsque les gens veulent avoir des relations sexuelles entre eux, ils le font gratuitement. Personne n'a besoin d'être payé, sauf si l'une des parties n'est pas enthousiaste à l'idée d'avoir des rapports sexuels. La pornographie, qui est essentiellement de la prostitution filmée, pourrait être considérée comme un peu plus complexe dans la mesure où les gens l'offrent parfois gratuitement et où les jeunes femmes croient parfois apprécier la validation et le sentiment de contrôle qu'elles éprouvent en vendant aux hommes des images de leur corps objectivé. Mais les jeunes femmes peuvent choisir de s'auto-objectiver si elles le souhaitent, je ne peux pas les en empêcher, mais cela ne signifie pas que des hommes prédateurs et sans éthique devraient avoir le droit d'exploiter des expériences jeunes et mal avisées d'autonomisation sexuelle. Ce n'est pas parce qu'une personne vous offre quelque chose que vous devez l'accepter. Voilà, alors là, voilà la partie qui m'a vraiment plu. Nous savons que la grande majorité des personnes qui se retrouvent dans le commerce du sexe sont soit forcées, littéralement réduites en esclavage, soit entraînées dans cette voie par des sévices et des abus pendant l'enfance, soit amenées à vendre des services sexuels par désespoir, pauvreté et dépendance. Le fait que des hipsters des classes moyennes et supérieures vivant à Vancouver, l'une des villes les plus chères au monde, se battent si fort pour normaliser et célébrer l'objectivation, l'abus et l'exploitation sexuelle en raison du fait qu'ils sont soit choisis, c'est bien pour vous, quel excellent choix, soit rémunérés, comme si les pratiques d'exploitation ou d'abus devenaient par magie éthique si une personne était payée, est honteux. Ce sont des gens qui, pour la plupart, ne se retrouveraient jamais dans une situation où ils devraient permettre à des hommes étranges et répugnants de piller leur corps pour survivre. Ce sont des gens qui peuvent se permettre le privilège de théoriser sur de telles expériences ou de pontifier à leur sujet sur les médias sociaux en utilisant les cicatrices émotionnelles, mentales et physiques marquées au fer rouge sur d'autres femmes comme un moyen de gagner un crédit social parmi leurs pairs tout aussi élitistes. Et ignorants. Indépendamment de ce que vous savez personnellement du monde intérieur des autres, je me suis longtemps interrogée sur l'objectif et la motivation de la normalisation du commerce du sexe. Pourquoi est-il important de convaincre les autres d'accepter des pratiques qui nous déshumanisent ? Pourquoi est-il important d'apprendre à rejeter un sentiment viscéral de malaise ou de dégoût pour tenter de forcer l'acceptation ou l'émoustillement ? Ce qui était autrefois déconcertant est devenu plus clair dans notre monde actuel où les mêmes personnages qui vendaient les spectacles de striptease comme un art avant-gardiste sous la bannière du burlesque et qui nous disaient que le sexe était simplement un travail comme un autre, vous savez, comme être barista mais avec une bite dans le cul, nous disent maintenant que nous devons accepter les hommes dans les vestiaires des femmes et les spectacles de travestis pour les enfants. Ces élites insistent pour que nous mettions de côté tout instinct naturel et toute éthique, pour que nous mettions de côté la réalité matérielle du sexe et des corps, pour que nous écrasions l'inconfort et les frontières qui nous ont traditionnellement protégés, même inconsciemment, en faveur du non-jugement. Même s'ils ne s'en rendent pas compte, ces libertins modernes encouragent une forme d'ouverture d'esprit, entre guillemets, qui permet aux abus de prospérer. Ils créent des espaces sûrs pour les prédateurs. Les hommes qui se promènent nus dans les vestiaires des filles sont des victimes innocentes, dont nous devons prétendre qu'elles ne sont pas du tout des hommes adultes, mais simplement une de ces filles bien adaptées pour une soirée pyjama et une bataille d'oreillers. Tout comme les hommes qui aiment les gangbangs et étouffent les femmes avec leur pénis ne sont que des employeurs éthiques qui payent les femmes équitablement pour un travail bien fait. Ce problème ne concerne pas seulement les woke de Vancouver qui projettent Deep Throat, le premier film pornographique grand public au Rio, mercredi. Mais le fait que cela soit promu et traité comme une soirée amusante, objectivation vintage, n'est qu'un élément de plus dans ce projet vieux de plusieurs décennies où les nantis ont droit à leur soirée de photos pour Instagram, un moyen de convaincre leurs petits amis ennuyeux et maigres qu'ils sont des nanas cool, prêtes à tout, sans limite mec, tandis que celles qui sont à l'autre bout de la bite, ou de la caméra, ou du vestiaire, ou de la cellule de prison, subissent les pires conséquences. Deep Throat. En effet, plus de 10 ans après la sortie du film, Linda Lovelace, née Linda Bormann, la star de Deep Throat, a déclaré qu'elle avait tourné le film uniquement parce que son mari de l'époque, Chuck Traynor, l'avait menacée avec violence. En 1986, Lovelace a témoigné des dangers de la pornographie devant la commission du procureur général sur la pornographie, déclarant que « pratiquement chaque fois que quelqu'un regarde ce film, il me voit en train d'être violé ». Cette déclaration a été balayée d'un revers de main par les mêmes femmes ravies de leur pouvoir de faire du MeToo à un DJ local sur Facebook, mais qui engagent leur dissonance cognitive lorsque cela leur convient politiquement, socialement ou financièrement. Dans leur cas, une expérience sexuelle qu'elles regrettent ou qu'elles considèrent comme traumatisante est une cause de cancel. Mais parce que le regret ou le traumatisme rétrospectif de Lovelace s'est produit dans l'industrie pornographique, il peut être considéré sans culpabilité, recadré comme une libération sexuelle. Je ne sais pas ce qui convaincra les grands ouverts d'esprit que nous n'avons pas évolué au-delà du sexe, des limites, du traumatisme, des abus sexuels ou du respect de soi, mais j'espère pouvoir convaincre quelques femmes que leur instinct leur donne de bonnes informations. Oui, c'est un homme. Non, vous n'êtes pas réac de vouloir de l'intimité. Oui, la prostitution est une pratique intrinsèquement dangereuse et inhumaine. Non, vous n'êtes pas coincé parce que vous n'aimez pas regarder une femme engloutir une série de bites à l'écran. Non, ces personnes ne sont pas progressistes, ce sont des narcissiques et des sociopathes à la tête vide qui tentent de convaincre le monde de renoncer à la vérité au profit de l'hédonisme. Ne laissez pas ces personnes dicter la nouvelle normalité. Leur normalité est une mascarade, un chapitre honteux pour les livres d'histoire du siècle prochain. Voilà, donc je vois que il est temps que je rende l'antenne. Je voulais juste finir donc sur un parallèle que fait Marie-Joseph de Villers entre les pro-GPA et les anti-IVG. Donc elle rappelle, vendredi 24 juin dernier, la Cour suprême des États-Unis avait annulé par 5 voix pour et 4 contre l'arrêt Roe v. White, estimant qu'il n'existe plus de droit constitutionnel fédéral à l'avortement. Pour donner suite à cette décision, chaque État doit adopter sa propre législation en matière d'IVG. Donc là, bon, sur ce qui se passe aux États-Unis, la guerre contre les femmes et au droit d'accès à l'IVG, j'en ai parlé justement dans le podcast de la semaine dernière. Mais ces États qui interdisent à présent l'IVG sont aussi ceux qui, comme quasi tous les États américains, acceptent et légalisent la GPA au bénéfice d'un immense marché de la reproduction dans l'intérêt de clients fortunés qui achètent ainsi des enfants. Par contrat, ils échangent de l'argent contre la remise d'un enfant et de son lien de filiation, ce qui correspond à la vente d'enfants. Les contrats américains de GPA prévoient que le premier paiement est versé à la mère, dite porteuse, lorsque le premier battement de cœur du fœtus est enregistré. L'enfant qu'une mère porteuse met au monde, entre guillemets, appartient déjà, dès l'insémination de l'embryon, au commanditaire. Pour les législateurs américains, lorsqu'il s'agit de GPA, le lien entre l'enfant et la femme qui lui donne la vie ne compte pas, pas plus que sa grossesse et l'accouchement. Les commanditaires, en revanche, ont tous les droits, dont celui de lui imposer une réduction embryonnaire ou une IVG, ainsi que les modalités et la date de l'accouchement par contrat. Sa capacité de décision, son autonomie lui sont ainsi retirées. Interdiction d'accès des femmes à l'IVG, légalisation et encouragement de la GPA procèdent toutes deux d'une même vision des femmes, comme contenant d'enfants à naître. Une vision rétrograde, réactionnaire, misogyne, déshumanisante, inacceptable, dont les législateurs aux États-Unis et dans bien d'autres pays se font les émules. La Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution déplore la décision de la Cour suprême américaine et les conséquences néfastes qu'elle engendre déjà pour les femmes américaines qui doivent avoir recours à une IVG. Voilà, donc je vous rappelle aussi que j'avais fait des podcasts par rapport à tout ça, la GPA, avec une interview de Marie-Joseph de Villers. Donc je vais vous laisser, je vous dis à la semaine prochaine. Nous qui sommes impassés.